foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en Formule Magazine. Au menu cette semaine, Olivier Lefébure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film, nous parlera notamment de Kwesi Pan, un film tourné par Myriam Véraud sur la Côte-Nord auprès des Innus, film qui a attiré l'attention dans plusieurs festivals. De son côté, Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de l'agence de presse Présence Information Religieuse, nous proposera un retour sur les grands thèmes de l'actualité religieuse des dernières semaines. Autre visite en studio, celle de Jonathan Guilbeault, éditeur chez Novalis, qui nous parlera de l'album Ghost Teen de l'auteur, compositeur, interprète Nick Cave, un album puissant sur le deuil, l'apaisement, l'espoir. Mais tout d'abord, nous vous proposons une rencontre avec Julie Tanguay, directrice générale de Foyer du Monde, et avec le frère dominicain Yvon Pomerleau, un des membres fondateurs de cette ressource pour réfugiés et migrants qui a pignon sur rue sur le plateau Mont-Royal. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. À l'automne 2013, le pape François lançait cet appel aux congrégations religieuses. « Ouvrez vos couvents vides aux migrants, aux réfugiés. » Cet appel vient happer les dominicains de la Trinité, alors en réflexion quant à l'avenir de leur couvent de la Terrasse Mercure sur le plateau Mont-Royal. Puis en mai 2017, les sœurs dominicaines cèdent leur place à une première famille de réfugiés. L'organisme Foyer du Monde voyait le jour, donnant une nouvelle vie à l'ancien couvent des Dominicaines de la Trinité. Depuis maintenant 2 ans, Foyer du Monde offre hébergement et soutien aux familles migrantes et réfugiées. Portée par la grande famille de l'Ordre des Dominicains, cette œuvre a présentement le vent dans les voiles. J'ai le bonheur de m'entretenir ce matin avec la directrice de Foyer du Monde, Mme Julie Tanguay, et avec un des membres fondateurs du foyer, le frère dominicain Yvon Pomerleau. Julie Tanguay, Yvon Pomerleau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'évoquais en introduction l'intuition de départ derrière la fondation de Foyer du Monde. J'évoquais aussi rapidement sa mission. Alors, Julie Tanguay, parlez-nous des personnes qui résident à Foyer du Monde. D'où viennent ces personnes? Comment est-ce qu'elles en viennent à cogner à votre porte, en quelque sorte?
Ça va faire plaisir de répondre à la question. Donc, on accueille des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants. Donc, ça paraît très large, mais solide. Ça se veut vraiment très ouvert. Je dirais qu'on reflète un peu les statistiques en termes de demandeurs d'asile, parce que c'est là qu'il y a le plus grand besoin. Donc, des personnes assez jeunes, dans la vingtaine, début trentaine, la majorité des femmes. On a aussi des enfants de très bas âge, et ils proviennent de différents pays. Bon, en simple, il y a 3 grands continents qu'on voit représentés, Amérique latine, Afrique, l'Asie avec le Moyen-Orient, et ça va être influencé selon les crises politiques, les différentes situations dans différents pays. Donc, par exemple, maintenant, on a Venezuela, ce qu'on pourrait s'attendre de l'Amérique latine. On a également le Congo pour l'Afrique. Donc, on a accueilli environ un peu plus d'une vingtaine de différents pays jusqu'à maintenant, à l'intérieur de 2 ans. Ils viennent à cogner à la porte de Foyer du Monde grâce à des références, parce qu'on veut vraiment rejoindre les personnes les plus vulnérables qui ont besoin de soutien supplémentaire dans leurs efforts d'intégration, d'inclusion dans la société québécoise. Donc, c'est des références d'un organisme, surtout de PRAIDA, qui s'occupe d'accueillir des demandeurs d'asile, donc vraiment de très première ligne, ou des organismes communautaires qui travaillent auprès des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui vont être en mesure de voir qui en a le plus besoin pour qu'on puisse accueillir vraiment les personnes qui sont vraiment rejointes par notre mission.
Parfait. Et frère Yvon Pomerleau, quel est le principal besoin des personnes qui résident à Foyer du Monde? De quoi ces personnes ont-elles besoin à leur arrivée chez vous?
Bien, comme c'était mentionné au début, il y a des activités d'hébergement et d'accompagnement qui sont liées. Alors, ceux qui arrivent chez nous cherchent un hébergement. Un hébergement temporaire, mais plus long que d'autres centres, peut-être, que vous connaissez. Aussi, le pont, qui accueille pour une semaine ou deux le temps de trouver un loyer pour ces nouveaux arrivants. Tandis que Foyer du Monde accueille pour un hébergement allant de 3 mois à 1 an, disons.
Ah oui.
Pourrait y avoir extension éventuellement si ça s'imposait. C'est un hébergement pour des personnes, comme le disait Julie à l'instant, plus vulnérables, qui ont besoin d'un accompagnement peut-être plus long ou qui sont dans une situation plus difficile. Pensons à une maman qui va enfanter dans un mois ou deux ou qui a un jeune bébé et qui est tout seul ici sur place. Donc, on cherche un hébergement avec accompagnement. Quel est le besoin le plus grand de ces gens? Je pense qu'il y a un besoin de sécurité. Ils ont vécu des situations difficiles et ils voudraient trouver un endroit plus tranquille, plus pacifique. Mmh. Un endroit convivial où ils puissent partager avec d'autres, trouver une oreille attentive à leurs problèmes, à travers peut-être d'autres résidents, mais à travers aussi l'équipe de bénévoles et de responsables. Je pense que pour beaucoup de gens qui nous arrivent, un des soucis, c'est de trouver un milieu où leurs enfants ou leurs enfants seront accueillis en sécurité et pour lesquels un avenir pourra s'ouvrir. Hmm.
Et combien de personnes peuvent être accueillies à Foyer du Monde? La capacité maximale, c'est combien?
Bien, présentement, on est dans des travaux de mise aux normes qui sont en train de tirer fin. Donc, ça va nous permettre d'augmenter notre capacité. Donc, présentement, on est à 18 personnes. Mm-hmm. Une fois les travaux complétés, on va pouvoir augmenter à environ 25 personnes. C'est sûr qu'on on peut pas être trop gros parce que l'objectif, c'est quand même d'être un milieu de vie chaleureux.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, ça limite dans un sens la capacité. Mais aussi, on veut s'assurer que ce soit un milieu agréable où vivre à long terme. Donc, on veut pas remplir à craquer les chambres. On veut que ça soit quelque part où nous-mêmes, tout le monde voudrait vivre. Moi, je voudrais vivre un foyer du monde. Donc, c'est un peu ça qui guide un peu les choix là, en termes de capacité.
Donc, il y a un désir de faire communauté, là, vraiment.
Oui, vraiment.
Et de quoi a l'air une journée à Foyer du Monde? Au quotidien, ça a l'air de quoi la vie à Foyer du Monde?
C'est vraiment la vie de famille, j'oserais dire. C'est sûr que le quotidien de demandeur d'asile est très exigeant. Il y a beaucoup de rendez-vous administratifs liés à l'immigration, des rendez-vous médicaux. Il y a des cours de francisation pour plusieurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de mouvements, des personnes qui partent, qui entrent matin et soir. Et il y a des personnes qui sont toujours qui sont à la maison, donc qui vont cuisiner, qui vont venir nous voir, qui ont des activités. Donc, il y a plusieurs, dans le fond, chaque résident a leur propre chambre privée, mais on a plusieurs salles communes, comme la cuisine, la salle à dîner, des salles de jeux pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans ces salles-là. Les personnes se côtoient, se rencontrent, on pique une jasette. Donc, c'est vraiment la vie de famille, là, dans tous ces sens.
Avec tout ce que ça implique de bouillonnement. Et de...
Ah oui. Puis il y a des bébés qui se passent dans les bras de l'un et l'autre, des choses comme ça. Donc, c'est très, très vivant.
Oui, oui. Et frère Yvon Pomerleau, Foyer du Monde a notamment commission de soutenir les migrants dans leur démarche d'intégration à la société québécoise. Comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que vous pouvez faciliter l'intégration des résidents de Foyer du Monde à la société d'accueil?
Mais ça commence d'abord à l'intérieur de la maison. Mm-hmm. Au lieu d'être isolés dans un appartement, ils sont dans un milieu communautaire où il y a une convivialité. Alors, à travers le partage avec les autres résidents, même s'ils viennent d'autres pays, les expériences du Québec qui sont naissantes en voie de développement peuvent être partagées dans la maison. Il y a aussi l'équipe de bénévoles, de responsables qui sont là. À travers des échanges informels. La cuisine est un lieu merveilleux de retrouvailles, hein? de rencontres. Donc, les échanges dans la maison et aussi, de façon un peu plus formelle, des ateliers. Et c'est un projet qui est déjà en cours de réalisation. Des ateliers pour faciliter l'intégration. Un des ateliers qui vient d'être lancé s'intitule « S'épanouir au Québec ». Alors, les codes culturels, les systèmes de santé, les services qu'on peut avoir. Il y a une assistante sociale, Christine, qui coordonne ces ateliers. Il y a les sorties organisées par Foyer du Monde. Des sorties selon les saisons, leur faire découvrir la différence entre l'été et l'hiver ici et les activités qui peuvent se déployer. Pour donner des exemples bien concrets, aller à une cueillette de pommes.
C'est ça, ben oui.
Alors là, ça permet de découvrir quand même un côté de notre culture matérielle. Une activité qui a eu un succès incroyable. Une ou deux familles, je pense, ou trois, surtout des mamans, ont pu aller à la pêche au petit poisson des chenaux.
Wow!
Alors, ce que je n'ai pas fait moi-même. Oui. Alors, en revenant à la maison, le plaisir était de cuisiner déjà immédiatement.
Les 10 poissons.
Les 10 poissons et de les partager. Hein. Les fêtes nationales ou les fêtes de quartier. Mm-hmm. Alors, on peut partager l'information, leur dire où se trouver, mais habituellement, il y a des bénévoles de Foyers du Monde qui vont accompagner pour introduire les familles. Mm. Il y a aussi des relations avec d'autres organisations.
Oui. Oui.
Alors, on ne peut faire pas tout soi-même. Alors, on peut les mettre sur la piste ou établir le lien pour des questions peut-être plus techniques, d'ordre juridique, de recherche de travail, recherche de loyer.
Donc, les ressources. Faire connaître les ressources qui sont
exactement,
sur le terrain,
qui sont disponibles.
Oui. Et Julie Tanguay, comment Foyer du Monde s'intègre dans le quartier? Comment l'organisme lui-même s'intègre dans le quartier? Comment les résidents du quartier perçoivent le foyer et ses résidents? Je rappelle que Foyer du Monde est en plein cœur du plateau Mont-Royal.
Premièrement, Foyer du Monde, on collabore beaucoup avec les organismes du plateau. Mm-hmm. Donc, déjà, on fait partie de deux tables de concertation autour des familles Grand Plateau et Action Solidarité Grand Plateau, qui nous permet de travailler avec les autres organismes, d'apprendre à se connaître, aussi à faire connaître aussi les demandeurs d'asile, les réfugiés, leurs besoins spécifiques. Et inversement, on apprend à connaître les organismes. Donc, par exemple, des halles garderies qui offrent des places aux personnes qui ne sont pas admissibles aux garderies subventionnées, par exemple, puis qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, on a beaucoup de liens avec les organismes du Grand Plateau. Et puis, pour les gens du quartier, je dirais qu'on se fait de plus en plus connaître. Pour plusieurs personnes, on est un peu comme le presbytère de l'église. Donc, on n'est pas... Parfois, ça vient vraiment par surprise. On a eu des bazars récemment. Les personnes, quand ils apprennent qu'on est un organisme qui est une maison d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, ils sont agréablement surpris. Et ils veulent... Tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Est-ce qu'on peut faire du bénévolat? Est-ce qu'on peut donner des vêtements ou autre? Donc, les réactions sont très, très positives dans le quartier immédiat. Donc,
il y a une générosité spontanée. Là, c'est
spontanée,
ça?
Vraiment. Là, puis, autant parfois, il y a peut-être, tu pourrais penser qu'il y a de la méfiance ou des incompréhensions, des préjugés face aux demandeurs d'asile, mais c'est pas du tout ça qu'on retrouve sur le terrain. C'est au contraire un très grand accueil, une très grande appréciation que ça se retrouve sur le plateau, vraiment.
Oui. Et Julie Tanguay, quelle place prend le bénévolat dans le fonctionnement de Foyer du Monde?
Bien, comme tout organisme, on ne pourrait pas survivre sans les bénévoles. Le nombre d'heures de bénévolat est astronomique. Donc, on a notamment deux services qu'on offre aux résidents qui sont liés au bénévolat. Donc, on a des vestiaires de vêtements qui sont disponibles pour les résidents et à l'externe aussi. Donc, pour les adultes et les enfants, ça c'est rendu possible grâce au bénévolat. On offre aussi un kit de départ aux familles lorsqu'ils quittent la maison pour qu'ils puissent retrouver un peu tout l'essentiel dans leur appartement. Mm-hmm. Donc ça aussi c'est rendu possible par le bénévolat. Mais il y a aussi toute la vie quotidienne, le soutien aux résidents. On va avoir des ateliers qui sont offerts par des bénévoles, comme des ateliers de conversation, des ateliers de tricot, etc. Puis c'est ça qui rend la vie de Foyer du Monde très agréable. Oui. Puis qui fait en sorte que les résidents ont aussi des petites douceurs dans leur quotidien. C'est pas juste des démarches lourdes, c'est des activités agréables qui apportent du bien-être. Donc ça, c'est rendu possible grâce à nos nombreux bénévoles.
Mmh. Et frère Yvon Pomerleau, fait intéressant. Foyer du Monde est une œuvre qui est portée par l'ensemble de la famille dominicaine, frères, sœurs, moniales et laïcs s'y impliquent. Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension proprement dominicaine dans l'approche déployée à Foyer du Monde, dans l'esprit même du lieu?
On imagine plus facilement le dominicain en chair faisant la prédication
ou à la bibliothèque.
À la bibliothèque ou au collège dominicain, à l'institut pastoral, donnant un cours. Je pense que le projet Foyer du Monde permet de vivre à plein le charisme dominicain. Parce qu'à travers ces divers engagements, peut-être d'ordre intellectuel, il y a une vertu dominicaine. Qu'il importe de souligner, c'est la miséricorde. La miséricorde était centrale dans la vie de Saint-Dominique. Je me souviens d'un ancien maître de l'ordre qui aimait souvent revenir sur la triple miséricorde de Saint-Dominique. Il y a une miséricorde physique. Saint-Dominique, dit-on, a vendu ses propres documents d'études pour venir en aide à des gens qui n'avaient pas de quoi manger. la miséricorde intellectuelle par rapport à l'ignorance, à l'erreur. Et c'est peut-être là qu'on peut situer l'engagement dans la recherche, l'enseignement. Et puis, à la miséricorde spirituelle. Hein. Que vont devenir les pécheurs? C'était la prière de Saint-Dominique. Donc, la miséricorde physique, matérielle, elle est au cœur du charisme dominicain. Elle est peut-être partagée différemment selon les branches. Quand on pense aux sœurs dominicaines, ben leur engagement s'est fait à travers des services d'enseignement auprès de défavorisés, à travers des soins médicaux, la miséricorde pour les malades. Mais l'assistance aux réfugiés est certainement aujourd'hui une des formes de miséricorde que les dominicains veulent développer, dans lesquels ils veulent s'engager. Si je pense à des rencontres importantes, ce qu'on appelle des chapitres chez nous, là, des assemblées générales au niveau des Dominicains, on a établi des priorités et les enjeux de justice et paix figurent parmi ces priorités. On avait, il y a quelques années, parlé du charisme dominicain comme un charisme aux frontières. Et il y a plusieurs frontières. Pas simplement des frontières physiques. Et il y a la frontière entre la vie et la mort. Et je pense que les réfugiés se trouvent souvent dans cette situation, dans cette frontière. Donc, à travers le projet Foyer du Monde, on donne visibilité à une des dimensions du charisme dominicain. Cette dimension de justice et paix, cette dimension de miséricorde corporelle, physique. Et on le fait en famille dominicaine. Les sœurs ont donné la maison pour le projet et elles continuent de le soutenir par des aides substantielles pour le fonctionnement. Les frères gèrent un peu la maison puisque les sœurs l'ont cédé aux frères temporairement avant que Foyer du Monde puisse assumer la responsabilité. Je dirais nos moniales dominicaines portent dans leurs prières ce projet au quotidien. Mais pour la gestion du projet, le gros noyau porteur est formé de laïcs dominicains, du côté des responsables comme du côté des bénévoles. Donc, tous les membres de la famille dominicaine se retrouvent ensemble. Alors, c'est déjà une dimension dominicaine. Oui. Et puis, se retrouvent ensemble pour vivre une dimension du charisme dominicain qui est centrale, qui est importante.
Oui, très intéressant. Et Julie Tanguay, de votre côté, est-ce que vous pourriez me dire ce qui vous enchante, ce qui vous émerveille, ce qui vous surprend encore après ces quelques mois à la direction de Foyer du Monde? Hein? Vous êtes arrivé en février 2019, si ma mémoire est bonne. Donc, qu'est-ce qui encore vous fait, c'est ça, vous émerveille, vous touche, vous bouleverse?
Je pense que il y a une émotion au début. Je pensais retrouver des demandeurs d'asile, puis tout ce que je savais, bon, principalement, se retrouver dans les médias. Donc, parfois avec des images un peu plus négatives que d'autres. Je me doutais bien que les médias ne transmettaient pas vraiment l'image juste. Et je m'attendais à trouver des demandeurs d'asile, mais j'ai retrouvé des personnes absolument merveilleuses, courageuses, avec une grande résilience, qui, oui, avaient vécu une tragédie, qui étaient persécutées dans leur pays, qui risquaient leur vie pour différentes raisons, étaient à la mauvaise place au mauvais moment. Et par manque de choix, si on veut, pour sauver leur vie, ils se retrouvent au Canada, donc, et qui, en même temps, dès le début, souhaitent redonner au Canada. Rester sur l'aide sociale, pour la majorité, c'est pas quelque chose qui est souhaité. Ils veulent redonner très rapidement ce qu'ils reçoivent au Canada. Des personnes de carrière, de grande intelligence, et la qualité humaine des demandeurs, des personnes qui sont demandeurs d'asile, est absolument exceptionnelle. Ça défie ce qu'on peut penser au sujet des demandeurs d'asile. Non, c'est pas vraiment un choix de quitter son pays dans ce contexte-là. De se retrouver dans un nouveau pays sans l'avoir choisi, c'est très difficile. Mais le courage de pouvoir commencer à neuf et de vouloir réussir, de vouloir redonner au pays d'accueil, me touche constamment. La reconnaissance qui est exprimée au quotidien, de dire, une chance que vous êtes là, parce que juste de savoir que je peux venir vous voir, ça fait une différence pour moi. Puis je me sens bien, je me sens en sécurité ici. Je peux pas imaginer ça serait quoi la vie sans Foyer du Monde. Mais c'est absolument fabuleux. C'est comme la vie de famille loin de la famille. On est cette famille-là. Puis de voir cette expérience de famille-là avec des personnes qui ont vécu ce contexte de vie-là difficile, ça donne Ça, chaque jour.
Ça donne du souffle, en tout cas.
Ça donne du bonheur. C'est en même temps, c'est difficile de voir des personnes qui ont vécu de contextes de vie aussi souffrants. Je pense que c'est difficile à imaginer si on ne le vit pas.
Oui.
Mais de voir ça de plus près, puis de pouvoir contribuer avec ces personnes-là en disant, ben, c'est merveilleux que nous, au Canada, on ait autant à offrir, qu'on puisse accueillir ces personnes-là puis leur donner la chance de réussir leur vie. C'est une reconnaissance pour ce qu'on vit au Québec, ce qu'on peut vivre au Québec, la liberté qu'on a, les droits de la personne qu'on respecte. Puis c'est des personnes merveilleuses qui, dans quelques années, vont changer la face du Québec, oui. Mais très, très positivement.
Mm-hmm. Donc, oui, ils vont un apport à la société d'accueil clair, évident. Là,
oui,
c'est ça.
Puis comme ils doivent faire tellement d'efforts pour apprendre à connaître le Québec, comment fonctionne le travail, comment ça fonctionne, les relations humaines, comment réussir, comment... ils comprennent le Québec, puis veulent la majorité veulent vraiment...
S'intégrer. Ils vivent, oui.
Oui, vraiment.
Au sens fort du mot, là. Mm-hmm. Et Julie Tanguay, frère Yvon Pomerleau, évidemment, Foyer du Monde a besoin de nos dons, dons en argent, dons matériels. Alors, dites-nous comment procéder, comment faire pour soutenir votre organisme. Alors, Julie, tu sais.
Il y a plusieurs façons, donc par des dons matériels comme par exemple des vêtements, donc ça c'est toujours très utile et très pratique, aussi certains matériels comme pour partir une maison, donc de la vaisselle par exemple, des items de cuisine, mais bien sûr les dons en argent nous permettent de répondre aux besoins les plus urgents, puis de continuer à pouvoir accueillir, donc il est possible bien sûr de donner par chèque en argent comptant, sur Canada Don, tous les détails se retrouvent sur notre site web, foyerdumonde.ca. Puis c'est sûr que les dons monétaires vont beaucoup nous aider. Puis une autre façon de nous aider, c'est en donnant du temps. Ça aussi, c'est vivement apprécié si ça va nous permettre de mieux accompagner, de mieux soutenir chaque personne.
Oui, multiplier les activités qui sont déjà nombreuses.
Oui, oui.
Une contribution importante pour Foyer du Monde, c'est peut-être ce que nous vivons ce matin, de faire connaître le projet.
Aussi.
Alors...
Donc, d'en parler autour de soi, de dire que ça existe, des gens veulent donner. Ben, il y a Foyer du Monde, j'ai entendu parler. foyerdumonde.ca, on peut avoir toutes les informations.
Exactement.
Alors, le numéro de téléphone, tiens, 514-903-9739. 514-903-9739. Julie Tanguay, frère Yvon Pomerleau, un grand, grand merci pour votre passage en studio aujourd'hui. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, je rappelle que Julie Tanguay est la directrice de Foyer du Monde et que le frère dominicain Yvon Pomerleau est l'un des membres fondateurs de ce lieu d'accueil de migrants et de réfugiés situé sur le plateau Mont-Royal à Montréal. Pour plus d'informations sur cette œuvre qui est portée par la famille dominicaine du Canada, visitez le www.foyerdumonde.ca. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foyer Turbulence. Restez avec nous. On discute cinéma avec Olivier Lefebure. Avec moi en studio, Olivier Lefebure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film. Dans le cadre de cette chronique sur le 7e art, nous discuterons de deux longs métrages québécois, soit Quessipan et Les fleurs oubliées. Le premier est déjà sur nos écrans. Le second film le sera à partir du 25 octobre. Olivier Lefebure, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, on commence avec Quessipan, un film réalisé par Myriam Véro qui a adapté librement le premier roman de Naomi Fontaine, un film sur les réalités des Innus de la Côte-Nord et beaucoup plus.
Et beaucoup plus, oui. Un très, très beau film, je dirais. Un de mes coups de cœur de l'année. Donc, Quessipan, effectivement, adapté du roman de Naomi Fontaine. Et ça raconte une histoire à la base toute simple. Ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui sont interprétées par, je l'ai nommé, Sharon Fontaine Ishpatao et Yami Grégoire, qui sont deux qui n'ont jamais joué, deux amateurs comme la plupart des gens dans le film. Et donc, ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes Innu sur la réserve de Ouachouat, juste à côté de cette île. Et c'est un portrait véritablement de la jeunesse Innu aujourd'hui au Québec. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est un portrait qui est très réaliste, mais qui n'est pas mélodramatique non plus. Myriam Véro n'a pas cherché à forcer le trait. Elle raconte ce qu'est réellement la vie des Innus sur une réserve, avec leurs difficultés à vivre, leurs espoirs, et elle pose un petit peu une question de comment s'en sortir.
Mm-hmm. C'est un film qui a eu une belle tournée au niveau des festivals un peu partout dans le monde. On peut penser que ça présente aussi à l'extérieur du Québec une réalité qui est méconnue. Déjà à l'intérieur du Québec, on connaît mal la réalité autochtone, mais là, ça se promène un peu partout dans le monde. Namur, entre autres, Vancouver, ça a été présenté à Toronto aussi.
À Québec aussi.
À Québec.
Effectivement, ce que vous dites, Mathieu, c'est très juste. C'est qu'à la fois, ça présente le monde, je dirais, innu aux Québécois qui le connaissent mal. Et d'ailleurs, dans le film, c'est dit à un moment donné, puisque une des jeunes femmes devient amie avec un jeune blanc de cette île, puis il le dit lui-même, je vous connais pas, vous les il sait pas comment
il sait pas comment la nommer.
Il sait pas comment la nommer. Il y a toute une scène où il dit ouais, vous les Indiens ou non ça va mal, ça je peux pas dire ça. Enfin vous les, et il sait pas comment, parce que il les fréquente pas.
C'est ça, il incarne en fond notre méconnaissance de
il incarne
la
totalement la méconnaissance du Québécois face aux Inuits qui pourtant vivent juste à côté.
Oui.
Puisque ça se passe à cette île, il y a deux réserves, il y a Ouachouat et Malioutema, et personne finalement, les deux communautés ne se croisent pas. Et donc le film permet à la fois, je dirais, à un Québécois de découvrir de l'intérieur c'est quoi une réserve, c'est quoi le monde innu. Et effectivement, comme le film va commencer à circuler à travers le monde, de présenter une réalité autochtone totalement inédite. Si moi je me positionne comme Français, pour moi, c'est une découverte, et j'imagine pour toute ma famille qui habite en France, voir ce film-là, c'est la découverte d'une réalité et la remise aussi en contexte d'un peuple.
Oui, et donc un film qui aborde plusieurs thèmes, notamment l'éducation, entre autres aussi la notion d'identité. Donc un film aussi qui parle de la réalité des réserves et vous y avez vu dans ce film-là un appel à sortir de la réserve, un appel d'air, en quelque sorte.
Oui, parce que ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes. Il y en a une qui va s'en sortir et l'autre qui va rester dans la réserve. Et celle qui, justement, veut évoluer, veut se sortir un petit peu de sa misère, c'est par l'éducation. Et qui dit... Alors, au début du film, quand on les prend, bon, au tout départ, elles ont 8-10 ans. Après, au bout de 15 minutes, on fait un saut dans le temps, elles ont aux alentours de 18 ans. Il y en a une qui termine son secondaire, et son ambition, c'est d'aller au cégep. Et aller au cégep, ça veut dire sortir de la réserve. Mmh. Et son objectif, c'est justement d'aller à Québec. Et là, se pose justement le dilemme, si je sors de la réserve, si je vais étudier comme les Blancs, est-ce que moi-même, je ne vais pas devenir un petit peu une espèce de blanche? Et c'est ce que lui reproche son amie qui reste dans la réserve parce qu'elle a déjà un enfant. C'est, elle lui dit, ah bah oui, tu vois, depuis que tu fais des études, tu te crois mieux que les autres, tu te prends pour une blanche. Donc il y a à la fois ce double problème. Pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des études, mais pour faire des études, il faut sortir de la réserve de façon physique, mais aussi, est-ce que le fait justement de quitter la réserve, de partir loin des siens, il n'y a pas à s'éloigner en même temps de sa culture et de ses origines?
Oui, il y a un arrachement.
Il y a un arrachement de la personne.
Oui, ah oui. Et Olivier Lefebvre, est-ce qu'on pourrait dire que Kwesi Pan nous montre que le cinéma peut être possiblement un outil de dialogue?
C'est un outil de dialogue, mais c'est aussi, je dirais surtout peut-être un outil d'éducation, parce que le film en lui-même est un appel, est un bel hommage à l'éducation qui permet justement d'évoluer et de se sortir de... pas forcément de la grande misère, parce que ce film-là, ça raconte pas de la misère d'un peuple.
On n'est pas dans le misérabilisme.
On n'est pas du tout dans le misérabilisme, mais on est simplement face à quelqu'un. Ça pourrait être quelqu'un, par exemple, de Schlaga, qui décide de sortir de sa condition. C'est exactement la même chose. Pour sortir de sa condition difficile, pour sortir d'un enfermement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Ce qui ne veut pas dire renier ses origines. Et donc, le film, à ce niveau-là, est un bel hommage
à la résilience.
À la résilience, parce que c'est aussi... Il y a beaucoup d'espoir dans ce film.
Oui. Et Olivier Lefebvre, quelle cote a été donnée au film Kwesi Pan par l'équipe de Mediafilm? Je rappelle que dans le système de cotes de Mediafilm, la cote 1 renvoie à un chef-d'œuvre et la cote 7 est donnée à un film jugé minable.
Il a été coté 3, très bon, et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir.
Le film est présentement à l'affiche, alors
oui, on y court. Oui, il va y être encore pendant, à mon avis, facilement quelques semaines.
Parfait. On parle maintenant du film Les Fleurs oubliées, du mythique réalisateur André Forcier. Un film où l'on parle d'hydromel, d'écologie, et où le frère Marie-Victorin revient sur Terre, rien de moins. C'est donc un film qui a un pied dans le passé, mais aussi dans le présent.
Oui, alors là, on est dans un autre univers. Oui. C'est plus du tout la réalité, c'est la fantaisie pure, puisque effectivement c'est le 15e film d'André Forcier.
15e quand même.
On le présente toujours comme l'enfant terrible, oui, du cinéma québécois. Faudrait dire maintenant le grand-père terrible du cinéma, oui, québécois, parce qu'il a quand même 72 ans. Et son film démarre. Alors son film effectivement est ancré à la fois dans le passé et dans le présent. Dans le passé parce que son idée, sa grande idée géniale dans le film, c'est de faire revenir le frère Marie-Victorin, qui est revenu beaucoup à l'actualité depuis un an avec sa correspondance qui a été dévoilée. Mmh. Et en même temps, c'est un film qui est pleinement ancré dans le présent, puisque c'est un appel écologique, un appel à l'environnement. Je dirais que dans le film, il y a tout, sauf Greta. C'est la seule référence qu'il n'y a pas. Mais c'est vraiment un film écologiste qui fait un appel à sauver l'environnement, puisque là, l'histoire, c'est Roy Dupuis qui incarne un ancien agronome chimiste qui a travaillé pour une grosse compagnie. Elle s'appelle Transgénia, mais ça ressemble beaucoup à Monsanto.
Transgénique, oui, ouais, c'est ça, oui.
Et lui, il a quitté la compagnie, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, visiblement, il était plus d'accord avec ce qui se faisait. Et lui, c'est un retour à la terre, il a des abeilles, il fait du miel, il fait justement de l'hydromel. Et le frère Marie-Victorin vient le voir, débarque un jour sur son bateau pour l'aider dans son travail, à la fois pour... parce que ce que veut le personnage de Roy Dupuis, c'est réintroduire des abeilles un petit peu partout, notamment en ville. Donc, il y a aussi un appel à l'agriculture urbaine.
Oui. Et donc, hommage au père Marie-Victorin. C'est une fable écologique. Les fables ont toujours, en quelque sorte, une certaine morale. En tout cas, les fables veulent nous passer un message. Ici, c'est un message donc de retour à la terre, de sauvegarde de l'environnement.
Il y a un retour à la terre, puisque le personnage de Roy Dupuis veut retourner notamment loin en région pour implanter des abeilles. C'est un retour à l'écologie, au fait de produire de façon locale et de façon proche. Puisque c'est ça, lui, il veut réintroduire tout ce qui est agriculture urbaine. Et c'est aussi un film contre tout ce qui est les OGM, l'exploitation, la surutilisation de produits chimiques. Il y a des scènes très drôles où on voit Gaston Lepage, qui est un agriculteur et qui est pris en main par Donald Pilon, qui est un des patrons de Transgénique, et ils pulvérisent leurs champs avec de la cochonnerie, et ce sont des ouvriers mexicains qui sont là, qui s'empoisonnent. Donc il y a
une critique.
Oui, c'est une critique assez mordante, c'est pas toujours très très subtil, mais c'est vraiment une critique assez virulente de la surexploitation qu'on fait de la terre et de l'abus des produits chimiques qu'on va utiliser, qui détruisent à la fois la nature mais aussi les hommes.
Oui, et la situation des travailleurs migrants agricoles.
Oui, c'est... Oui. Alors, le film aborde plein de choses, et en même temps, le personnage du frère Marie-Victorin veut, lui, réintroduire des fleurs cosmiques. Et donc là, en même temps, il y a un appel, faut pas jouer à Dieu non plus, faut pas vouloir faire n'importe quoi, dans un sens comme dans l'autre. D'un côté, il y a les compagnies de produits chimiques qui font un peu n'importe quoi, mais de l'autre côté, il y a le frère Marie-Victorin qui, lui aussi, délire un peu. Donc, il y a un appel à trouver un juste milieu dans, à la fois, l'utilisation de la terre et des engrais, des produits chimiques.
Donc, une certaine humilité.
Oui.
Parfait. Et quelle cote a été donnée au film Les Fleurs oubliées par l'équipe de Mediafilm?
Le film n'a pas encore été coté, puisqu'il ne sort que vendredi 25.
Le 25, oui.
Donc, mais ça devrait tourner aux alentours d'un 4.
Parfait. Et d'ailleurs, Les Fleurs oubliées vont faire l'objet d'une... Le film va faire l'objet d'une projection au Festival du Nouveau Cinéma.
Oui, le Festival du Nouveau Cinéma faisait un hommage à Forcier et le film est présenté ce soir à l'Impérial. Il y a encore des billets, donc c'est l'occasion pour ceux qui voudraient découvrir le film dès ce soir d'aller à l'Impérial voir le film sur un grand écran dans une très belle salle.
Donc ce mercredi 16 octobre dès 19h. Olivier Lefebure, un grand merci pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci.
Merci Mathieu.
Alors je rappelle qu'Olivier Lefebure est rédacteur et chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film. Il nous parlait des films Kwesipan et Les Fleurs oubliées. Consultez le www.mediafilm.ca pour avoir accès aux bandes-annonces et aux horaires de ces films. C'est toujours Mathieu Lavigne à la barre de Foi et Turbulence. Restez avec nous. Suivra la chronique Actualité religieuse de Philippe Vaillancourt. Poursuivons avec la chronique Actualité religieuse de Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de l'agence de presse Présence. On rejoint Philippe à Québec. Philippe Vaillancourt, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Philippe, le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire dévoilé le 1er octobre dernier par le gouvernement du Québec aspire notamment à transformer les commissions scolaires, ça on le sait, mais ce projet de loi, s'il est adopté, aurait d'autres impacts peu soulignés dans les médias. Entre autres, le gouvernement signifie dans ce projet de loi son intention d'abolir le comité des affaires religieuses du ministère de l'Éducation.
Également de retirer de la loi sur l'instruction publique toutes les références à la spiritualité. Mmh. Effectivement, ça fait assez peu réagir. Pourtant, hein, c'est pas les débats entourant les questions religieuses à l'école qui manquent depuis quelques années. Actuellement, le gouvernement est en train d'appliquer sa nouvelle loi sur la laïcité qui interdit notamment le port de signes religieux par des enseignants. On a également indiqué qu'on souhaite revoir le cours obligatoire éthique et culture religieuse, le cours qui a remplacé les anciens cours de catéchèse depuis 2008. Alors, on est dans ce contexte-là, et là, le gouvernement annonce son intention d'abolir le comité. Il faut dire que le comité sur les affaires religieuses, il faut comprendre que c'était un comité-conseil qui, lui, avait remplacé les anciens comités au moment de la déconfessionnalisation du système scolaire en 2000. Les anciens comités catholiques, d'une part, et protestants, d'autre part, qui, eux, avaient un pouvoir décisionnel plus grand au sein du ministère de l'Éducation, avaient été remplacés, ces deux-là, par un unique comité des affaires religieuses qui n'avait plus le même pouvoir, qui devenait, comme je disais, un comité conseil. Et lui relevait au ministère des Affaires, au ministère de l'Éducation, relevait d'un secrétariat. Et ce secrétariat-là, lui, a déjà été aboli en 2014, ce qui fait que le comité comme tel n'était déjà plus effectif depuis un certain temps. Par contre, les membres du comité, le comité existe toujours, les membres sont toujours là et officiellement, il est encore là. C'est juste que le comité n'a rien fait depuis quelques années. Mm-hmm. Alors, on a parlé à plusieurs membres du comité, par exemple Jean-Philippe Perrault, professeur à la faculté de théologie à l'Université Laval, professeur Perrault, qui est un spécialiste du cours éthique et culture religieuse, qui il dit, ben écoutez, c'est un comité qui pourrait certainement donner des avis pertinents. Et c'est un peu ce qui ressort finalement, même chose de la part le premier président du comité, Jean-Marc Charon, un spécialiste de la psychologie des religions, lui qui est à l'Université de Montréal. Même chose, il dit, ben là, on a un gouvernement qui visiblement pourrait bénéficier d'être conseillé sur des questions qui touchent à la religion dans un contexte scolaire. Alors, c'est dommage de voir qu'on ne veut pas se prévaloir d'un outil. Mmh. Et que ça fait déjà plusieurs années, en fait, qu'on n'utilise pas cet outil-là. Mmh. Donc ça, c'est pour ce qui est du comité. Mais effectivement, il n'y a personne qui a déchiré sa chemise là-dessus encore. Mmh. L'autre élément, c'est le retrait de la loi des références à la spiritualité. Il y a un certain nombre d'articles dans la loi sur l'instruction publique, là, qui gère vraiment ce qui se fait pour les écoles au Québec, il y a un certain nombre d'articles où le mot spirituel ou spiritualité est mentionné. Donc, ces références-là, on veut, avec le projet de loi 40, les retirer. Alors, tout ce qui concerne spirituel, spiritualité, sauterait de la loi. Donc, tout de suite, ça a inquiété ceux qui s'occupent de l'animation à la vie spirituelle puis à l'engagement communautaire dans les écoles en se disant, ben là, est-ce que ça veut dire que nos postes à nous sont remis en question? Non, c'est en tout cas ce qu'on a entendu de la part du président de l'Association professionnelle des animatrices et animateurs de vie spirituelle d'engagement communautaire du Québec, qui est Benoît Thibodeau. Même chose, on a demandé au gouvernement, est-ce que, dans le fond, vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'abolition de ces postes-là et de ce service qui est offert? Et du côté du ministère de l'Éducation, la direction des communications nous a répondu non. Il n'y a pas de crainte à avoir. Le texte législatif n'aurait normalement aucun impact sur le maintien de cette fonction-là. C'est tout simplement, le côté du gouvernement, on a fait valoir qu'il s'agit d'uniformiser un peu la pratique, c'est-à-dire que le service complémentaire d'animation spirituelle et d'engagement communautaire est en fait un des 12 services complémentaires prévus par le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire puis de l'enseignement secondaire, et va le rester. Je vous dirais que il y a d'autres services. Qu'est-ce qu'on entend par ces services-là? Ça peut être de l'orthopédagogie, etc. Bref, d'autres services complémentaires à ce qui s'offre en milieu scolaire. Donc, non, ça ne disparaît pas. C'est tout simplement qu'il est retiré officiellement de la loi. Bon. Alors, n'empêche qu'on voit que les choses évoluent au niveau de la loi sur l'instruction publique et que tout ce qui concerne religieux, religion, spiritualité, etc., de plus en plus, on voit qu'on le met sur la voie de côté, là, on y accorde de moins en moins d'importance.
Oui. Maintenant, Philippe Vaillancourt, parlons un peu d'histoire. En fait, on va parler de pathographie, rien de moins. On va en parler dans la foulée de la numérisation du masque funéraire de Marie de l'Incarnation, la fondatrice des Ursulines, qui est arrivée en Nouvelle-France, rappelons-le, en 1639. Alors, Philippe, éclairez-nous sur ce projet de recherche.
C'est un projet de recherche fascinant qui est mené par le professeur Philippe Roy-Lisancourt à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il est devenu responsable, directeur scientifique du Centre Marie de l'Incarnation, qui est affilié à la même université, là. Et surtout, il a été assez étonné de découvrir ce masque funéraire que, selon la tradition orale des Ursulines, serait celui de Marie de l'Incarnation. Donc, Sainte Marie de l'Incarnation, grande figure de la Nouvelle-France, Marie Guyard, qui fondatrice des Ursulines à Québec, qui a été canonisée il y a quelques années. Bref, un grand nom de l'histoire du Canada.
Oui.
Et là, on essaie de voir, d'abord, est-ce que c'est bel et bien le masque funéraire de Marie de l'Incarnation, d'une part, et d'autre part, est-ce que, à partir de ce masque-là, on pourrait reproduire le visage, peut-être, de Marie de l'Incarnation. Alors, c'est ce qui a amené, la semaine dernière, le professeur Roy-Lisancourt, dans une clinique de Québec, j'ai pu l'accompagner, pour aller faire la tomodensitométrie du masque funéraire. En bon français montréalais, ça, c'est un CT scan, OK?
Ah, voilà qui est clair.
Voilà, c'est ça. À Québec, dans le jargon médical, on appelle ça un TACO, là, mais c'est pas utilisé nulle part ailleurs au Québec. Là. Essentiellement, on a fait une numérisation. On a scanné le masque, pour le dire très franchement. On l'a faire ressortir les traits. Ça va permettre de le visualiser mieux en trois dimensions. Maintenant, avec ces images-là, le professeur Roy-Lisancourt va se rendre en France, où il va aller rencontrer d'autres spécialistes de ces reconstitutions historiques, et ils vont essayer de reconstruire le visage vraiment qui est celui qui a été moulé par ce masque-là. On n'est pas certain toutefois, comme je le rappelle, que c'est bel et bien le masque de Marie de l'Incarnation. Alors oui, on va se retrouver avec un visage, certainement, mais le professeur Roy-Lisancourt doit multiplier les démarches encore, la recherche, pour voir est-il plausible qu'il s'agisse bel et bien du masque de Marie de l'Incarnation. Alors, il y a un certain nombre de démarches à la fois, je dirais, historiques, qui concernent la recherche dans les archives, mais aussi des démarches de nature plus médicale, médico-légale, là, comme certaines recherches sur de l'ADN. Il est notamment à la recherche là, des restes du fils de Marie de l'Incarnation. Hein. Marie de l'Incarnation a été mariée, il y a eu un fils avant de devenir d'entrer en religion. Et lui-même, il a été religieux par la suite, ce fils. Donc, il dit peut-être qu'on pourrait, parce que le Vatican n'a pas donné son autorisation pour faire des prélèvements sur les ossements de Marie de l'Incarnation.
Oui.
Et le crâne de Marie de l'Incarnation a disparu, oui. Probablement décomposé avec les années et tout. Donc, mais comme le Vatican, comme elle est sainte, on n'a pas autorisé des prélèvements pour vérifier l'ADN de Marie de l'Incarnation sur les ossements. Alors peut-être qu'on pourrait le faire à partir des ossements du fils.
Oui.
Bref, ça serait à voir. C'est une démarche qui se poursuit là, dans le cadre du professeur. En janvier 2020, donc dans quelques mois, normalement, il devrait avoir des nouveautés à communiquer dans ce dossier-là.
Parfait. Et en une minute, Philippe, l'évêque du diocèse de Trois-Rivières vient de suspendre la vente d'une église à un groupe musulman. Alors, Philippe, dans quel contexte s'est prise cette décision?
La Fabrique du Bon Pasteur gère notamment l'église Saint-Jean de Brébeuf, qui est une église qui n'est pas utilisée en permanence. Et comme c'est le cas dans plusieurs diocèses, plusieurs paroisses au Québec, il y a des églises en trop. Bon. L'offre est plus grande que la demande, finalement, pour les églises. Et le Centre culturel islamique de la Mauricie a des locaux trop petits devant l'église. Alors, il a proposé de racheter l'église pour 500 000 $ et la fabrique a analysé l'offre et finalement, ça, ils se sont entendus, d'accord. Mais la loi sur les fabriques au Québec autorise l'évêque pardon, à avoir un ultime droit de regard. Avant qu'une église puisse se vendre. Et il y a une semaine, on a eu une rencontre d'information publique à la paroisse, et ça a donné lieu à plusieurs commentaires inquiets, voire même désobligeants, et parfois même haineux, à l'endroit des musulmans. Et ça a fait ressortir des non-dits, vraiment qu'il y a un malaise autour de cette vente-là chez plusieurs catholiques. Donc, l'évêque, devant la situation, a décidé de suspendre la vente, comme la loi le lui permet, en disant, écoutez, s'il y a des choses qui ont été dites, vraiment, on s'en excuse, là, blessantes pour les musulmans, on s'en excuse. Mais il dit, on va prendre un moment, avant de foncer avec le projet, on va prendre un moment, on va prendre un recul pour se calmer un peu, et ça va être bénéfique, plutôt que de foncer avec une vente qui va peut-être alimenter des tensions oui. sociales. Mais ça en dit long quand même sur un certain contexte dans les relations entre catholiques et musulmans à Trois-Rivières.
Tout à fait. Philippe Vaillancourt, merci beaucoup pour ce retour sur l'actualité religieuse des dernières semaines. Merci beaucoup, Philippe.
Merci. Au revoir.
Alors, je rappelle qu'on peut lire le journaliste Philippe Vaillancourt sur le site de l'agence de presse Présence au www.presence-info.ca. D'ailleurs, l'agence Présence est présentement en campagne de financement. Plus de détails sur leur site web. Restez avec nous. Suivra la chronique musicale de Jonathan Guilbeault. The bright horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Side and I'm holding your hand. Bright horses of wonder springing from your burning hand. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. On vient d'entendre un extrait de la pièce Bright Horses de cet artiste unique, énigmatique, qui est Nick Cave, artiste qui était d'ailleurs de passage à Montréal le 27 septembre dernier. La chanson Bright Horses est la seconde pièce du nouvel album de cet auteur, compositeur, interprète australien. Artiste toujours accompagné de ses Bad Seeds, un groupe avec qui il travaille depuis plusieurs décennies. Cet album est disponible sur la plupart des plateformes en ligne depuis le 3 octobre et va être disponible bientôt en support matériel, vinyle, CD, en novembre. C'est un album qui arrive 4 ans après le décès tragique du fils de Nick Cave. Un album à la fois sombre et lumineux. Un album porteur de souffrance, certes, mais aussi d'espoir. Et on va en parler avec Jonathan Guilbeault, éditeur chez Novalis, homme de livres et de musique, qui nous présente chaque mois à notre micro artiste, chanson, album, qui déclenche chez lui une réflexion sur la vie, la société, notre rapport à Dieu et au monde. Jonathan Guilbeault, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Jonathan, wow, quel choix d'album pour cette chronique, vraiment un album spectaculaire. en sens où il est tellement minimaliste, en quelque sorte. Mais avant d'aller plus loin, un mot sur Nick Cave, cet artiste pluridisciplinaire majeur.
Oui, ben, il a touché l'écriture au cinéma, entre autres. Je ne sais pas si comme artiste pluridisciplinaire, on peut le qualifier de majeur. Ce qui est certain, c'est qu'en musique, c'est un artiste majeur. Hein. Ouais. Dans la sphère musicale, il a beaucoup expérimenté par des collaborations ici et là, mais plus simplement dans le déploiement même de son œuvre avec les Bad Seeds qu'il a créé en 1983. Il a vraiment touché à plusieurs styles de musique. Ce que l'on peut dire de certains à propos de Nick Cave, c'est qu'il a su bien vieillir, contrairement à d'autres. En 40 ans de carrière, il a rarement raté son coup, premièrement. Il n'a jamais sonné déphasé, ringard, mais tout en restant très libre par rapport au mode du moment.
Oui, oui. Et Jonathan Guibeault, donc sur le plan esthétique, comment vient s'insérer le nouvel opus de Nick Cave, Ghost Teen, dans le vaste catalogue qui est le sien? En Nick Cave et ses Bad Seeds ont produit rien de moins que 17 albums jusqu'ici.
Ben, c'est le deuxième album de Nick Cave depuis le décès de son fils Arthur, comme vous l'avez mentionné, bon, qui avait 15 ans en 2015 lorsqu'il est tombé d'une falaise. Si la mort d'Arthur est prégnante sur l'album précédent, Skeleton Tree, c'est encore plus vrai pour Ghost Teen, dont chacune des chansons a été composée après 2015, donc après l'événement. Alors, d'un point de musical, on est très près de ce que Cave compose depuis 2013, une utilisation plus importante d'instruments, un son plus orchestral, plus électronique aussi en raison de la présence de synthétiseurs, une musique qui sonne moins rock que ses albums des années 90, clairement, mais qui se distingue aussi de ses pièces de ballade, piano-voix, par un travail d'orchestration le plus poussé, plus sophistiqué. Et avec Ghost Teen, comme précédemment avec Push the Sky Away et Skeleton Tree, on dérive lentement dans des paysages sonores d'ombre et de lumière au gré des histoires que nous compte Cave.
Ouais, là, on est dans le travail d'ambiance, là, littéralement. On est loin de ce qu'il a pu faire avec Grinder Man, oui, voilà, qui était très rock, limite punk même par moment. Alors, Jonathan Guibeault, quels sont les thèmes au cœur de Ghost Teen? Il y a celui du deuil, bien sûr, mais Nick Cave va aussi bien au-delà de ce thème du deuil.
Je dirais que la différence avec Skeleton Tree, c'est que le deuil, cette fois, débouche volontiers sur d'autres thèmes. Ça reste la trame de fond, mais à partir du deuil, Cave réussit à parler magnifiquement d'amour conjugal, de foi fragile, d'espérance, et plus généralement du droit qu'il se donne de se conter des histoires qui le gardent en vie. Des histoires qui sont peut-être vraies, peut-être pas, mais qui le font aller de l'avant. Alors, des histoires qui le réconfortent. Et je pense que le réconfort est le grand thème de l'album à côté du deuil. Alors, le titre de l'album, c'est évidemment un jeu de mots, Ghost Teen, donc adolescent fantôme. On sent bien Cave hanté par le fantôme de son fils. Sa vie semble graviter autour de ce trou noir. C'est particulièrement évident dans les premières chansons, très sombres, qui débouchent souvent sur un brûlant désir de réconfort. Un désir de réconfort qui s'exprime par la répétition de paroles très courtes que l'on devine provenir de son fils. I love you, I love you, I love you. Peace will come, peace will come, peace will come. I'm waiting for you, I'm beside you, I'm beside you. Des paroles de réconfort répétées comme un mantra de manière un peu spectrale, on pourrait dire, là. Et la répétition donne aussi l'impression que Cave est un peu en train de se convaincre. Mais il le sait et il l'assume.
Oui. Parfois, on dirait qu'il parle à son fils. Parfois, on dirait que le fils lui parle.
Il répond, oui, voilà.
C'est très touchant. C'est même troublant, parfois. Là. On assiste vraiment à quelqu'un qui est en quête d'apaisement. Là.
Ah, ben absolument.
Oui. Et l'univers de Nick Cave est meublé par des références religieuses, des références christiques notamment, et ça, depuis, j'aurais le goût de dire, depuis toujours. Jonathan Guibeault, l'album Ghost Teen de Nick Cave représente quoi pour vous comme homme de foi?
De la foi, on sent que Cave perd et retrouve la foi constamment cet album, parfois même dans la même chanson. Je crois que la foi pour lui est justement constituée par ces histoires qu'on se compte, des histoires dont on hérite aussi et auxquelles on choisit de s'accrocher. Alors, il chante « This world is plain to see ». It doesn't mean we can't believe in something. Mm-hmm. Alors, ce monde est plat, simple, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire quelque chose. Ailleurs, il chante, well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Parfois, un peu de foi peut faire bien du chemin. Alors, par ailleurs, la figure de Jésus apparaît ici et là, notamment Jésus gisant dans les bras de Marie. Jesus lying in his mother's arm is a photon released from a dying star. Jésus gisant dans les bras de sa mère est un photon provenant d'une étoile éteinte. Alors, Jésus devient l'archétype du fils perdu, porteur d'une promesse. Mais une promesse extrêmement fragile. Ce qui reste de l'espérance quand tout espoir semble nous avoir désertés. Hein. Fragile comme une histoire que l'on sait, que l'on s'invente pour soi, pour se consoler.
Mmh. Il y a beaucoup de références. On sent chez Nick Cave aussi un désir de regarder la beauté du monde. Il en parle d'ailleurs dans certaines pièces. Il s'ouvre sur la beauté du monde. Il se raccroche, dans le fond, à cette beauté.
Ah oui, à coup de métaphore, ouais, d'histoire qui débouche sur une fin plus lumineuse. Il s'y accroche. C'est comme si son regard était un peu guéri par ces histoires-là.
Oui. Et Jonathan Guibeau, vous êtes papa. C'est difficile de pas aborder, de pas écouter cet album-là sous l'angle de la paternité, justement, de la perte aussi. Alors, comme père, comment vous avez reçu cet album-là?
Bien, j'aimerais pouvoir vous répondre, Mathieu. Mais bizarrement, contrairement à l'autre album, Skeleton Tree, on dirait que cet album-là ne me parle pas tellement en tant que père, mais en tant que conjoint. Ouais, je trouve que c'était une superbe lettre d'amour à sa femme. Et au fait que si la vie est faite de tragédies trop épouvantables pour nous seuls, c'est pour nous apprendre à compter les uns sur les autres. Oui. Et c'est là que l'album devient puissant du point de vue spirituel. Cave prend acte que nous sommes tous dans le même bateau du deuil, en quelque sorte, hein, que son deuil n'est pas unique, que la solution n'est pas de s'y complaire, de se révolter, mais de prendre appui sur son prochain. Et dans le cas d'un homme qui perd son fils, le prochain le plus immédiat est évidemment la mère de cet enfant. Mm-hmm. Et quand on sait à quel point la perte d'un enfant est souvent létale pour les couples, c'est très difficile pour un couple de perdre un enfant. Alors, c'est donc édifiant, réconfortant d'entendre un homme comme Cave, habitué au drame, aux tragédies, qui a carburé au drame toute sa vie. Alors, quand il nous chante la grandeur d'un couple uni dans la tragédie, moi, c'est ce qui m'a fait le plus résonner, ce qui revient le plus souvent à l'écoute.
Jonathan Guibeau, comme toujours, vous arrivez avec des analyses qui me surprennent. Alors, un grand merci, Jonathan, pour votre présence en studio ce matin. Merci.
Plaisir, Mathieu.
Alors, je rappelle que Jonathan Guibeau est éditeur chez Novalis, blogueur sur le blog Les Carnets du Parvis et collaborateur aux pages débat de La Presse. Il commentait pour nous le plus récent album de Nick Cave and the Bad Seeds, un album double qui a pour titre Ghost Teen. On se laisse avec quelques mesures d'une autre pièce tirée de cet album, la pièce Waiting for You. Je rappelle que cet album est déjà disponible en ligne et que la version CD et vinyle sera disponible le 8 novembre.
All through the night we drove in wind caught her hair and we parked on the beach in the cool evening air. Well, sometimes it's better not to say anything at all.
C'était votre épisode de Foi et Turbulence pour cette semaine. Un grand merci à mes invités, Julie Tanguay et le frère Yvon Pomerleau, tous deux de l'équipe de Foyer du Monde. Merci également à Olivier Lefébure, Philippe Vaillancourt et Jonathan Guibeau. Merci à Valérian Fournier et Daniel Fortin pour leur savoir-faire à la régie. La semaine prochaine à Foi et Turbulence, cette fois en formule table ronde, François Gloutenay sera entouré d'intervenants et d'intervenantes qui analyseront les moments forts de l'actualité sociale, politique et religieuse, tant nationale qu'internationale. Je rappelle que cette émission est coordonnée et produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.